بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم شيخي، رجعنا كومبليتي لسورة النساء. Et dans la sourate An-Nisa, il y a nombreuses explications concernant la manière de cohabiter dans le couple. Et le verset qu'on a retenu ce soir, c'est le verset d'un cas extrême où dans un couple, il n'y a plus de possibilité d'entente. Parce que lorsqu'il y a une union dans un couple, alhamdoulilah, il y a des moments parfois où il y a beaucoup de bonheur, où il y a beaucoup de baraka, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a des moments aussi parfois qu'au cours de circonstances ou alors difficultés dans l'entente ou conception des choses différentes, éducation, culture différente, quelles que soient les raisons, qui fait que parfois il y a des litiges entre le mari et sa femme. Et dans la société moderne, la notion de mariage n'existe presque plus. Les gens, ils cohabitent ensemble, c'est du concubinage, ceux qui ne sont pas musulmans bien sûr, il y a très peu de personnes qui font encore l'acte religieux, qui ont encore un caractère religieux sacré dans le mariage. Dans le peu de couples qui existent encore, pour lesquels il y a des mariages religieux, malheureusement, la question de divorce est devenue quelque chose de courant. Je pense que dans ces dernières décennies, on n'a jamais vu malheureusement autant de cas de couples qui se séparent dans la communauté musulmane, et ça, mes chers frères, c'est quelque chose de déplorable. Alors que dans l'islam, nous avons des solutions. Alhamdulillah, déjà Allah Azza wa Jal n'a pas rendu le divorce haram, comme dans d'autres religions où, quand on se marie, on n'a pas le droit de divorcer. Imaginez que vous avez mal pioché, que vous êtes tombé sur une femme que vous croyez qu'elle était comme vous le souhaitiez dans vos rêves, mais dans la réalité c'est autre chose. Au bout de quelques temps de vie commune, vous vous rendez compte que vraiment vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Alors imaginez si la religion avait empêché, avait rendu haram le divorce, il aurait fallu vivre cette situation jusqu'à la mort, ça aurait été chose difficile. Allah Azza wa Jal a donné la possibilité à un couple d'en finir avec le lien du mariage quand vraiment ils ont atteint un point de non-retour. Mais avant que le divorce soit prononcé, il y a beaucoup de possibilités pour essayer de, pourrait dire comme ça, de recoller les morceaux. Et malheureusement, de nos jours, les couples ne sont plus assez responsables. Alors à l'origine, si on regarde bien la sagesse pour laquelle c'est l'homme qui a le droit de donner le divorce et non pas la femme, c'est qu'à l'origine, je dis bien à l'origine, l'homme est censé être plus posé. L'homme est censé mieux maîtriser les situations. L'homme est censé avoir un esprit plus régulier. Il ne s'en portera pas pour le moindre écart de comportement ou le moindre écart de langage. Ce qui fait que, ça c'est les professeurs nous expliquaient que si le droit de donner le divorce avait été donné également aux femmes, j'avais un professeur qui disait, on retournerait chez nous tous les jours avec un divorce. Parce que la femme, pour la moindre erreur, le moindre manquement, elle s'emporte et elle oublie immédiatement ce que le mari a pu faire pour elle depuis je ne sais combien d'années de mariage. Maintenant, dans l'autre sens, malheureusement, ça c'est à l'origine, mais dans l'autre sens aussi, nous voyons que de nos jours, il y a plus en plus de messieurs qui ont ce genre de caractère, qui ne font plus preuve de patience, qui ne savent plus faire preuve de concession, et lorsqu'il y a le moindre problème de le couple, immédiatement, il y a le gros mot qui sort, il y a le mot divorce, il menace presque la femme, si tu continues, je vais te donner le divorce. C'est abuser d'un pouvoir qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'homme. Allah Azza wa Jal n'a pas donné à l'homme le pouvoir de divorcer dans le but d'en faire un chantage. Si tu continues, tu retourneras chez ta maman, si tu continues, c'est fini, tu n'auras plus de maison, tu n'auras plus de rente, plus de loyer, etc., etc., tu seras seul. On n'est pas en droit de faire chanter notre épouse pour qu'elle accepte toutes nos conditions, qu'elle accepte nos caprices aussi, parce que sinon on risque de lui donner le divorce. Un divorce, c'est quelque chose qui peut être donné, mais après mûre et mûre réflexion, c'est abrabul halal, la pire des choses qui est licite. Dans certaines choses, il est même dit que le trône d'Allah tremble lorsqu'un mari donne le talaq, lorsqu'un mari donne le divorce à sa femme. Et de nos jours, les gens se marient, des jeunes couples se forment, alhamdulillah. Mais très souvent, des deux côtés, ils ne savent pas les règles de jurisprudence concernant le divorce. Et il n'y a pas longtemps encore, une personne, quelqu'un que je connaissais bien, tout d'un coup, j'apprends que la personne a donné 3 divorces à sa femme en une seule fois. Alors que ça, c'est
c'est un grand péché que de donner trois talaq à sa femme. Il y a beaucoup de gens, c'est des jeunes couples, ils ne savent pas, ils voient que la situation est bloquée, ils disent, écoute, voilà, toi, c'est un moment, je te donne les trois divorces. Il ne sait pas qu'il vient d'enterrer sa femme et il vient de s'enterrer lui-même. Parce que jamais plus jusqu'à sa mort, il ne pourra retourner un jour avec cette femme. Il n'y a plus possibilité de reprendre à partir du moment où trois divorces ont été donnés. Mais il y a des cas de figure d'exception, mais celui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui agit par pure ignorance. Alors que donner un seul divorce, les conséquences auraient été plus ou moins similaires, il y aurait eu la séparation, mais avec une chance de pouvoir récupérer. On ne va pas entrer dans le détail. Donc, dans le verset qui nous intéresse, « Wa in khiftum shiqaqa baynihima » dans le cas où il y a trop de litiges, il y a un conflit permanent qui pourrit la vie du couple et qu'on craint qu'il y ait une cassure immédiate, si ce n'est pas dans quelques jours, dans très peu de temps, alors le qadi, bon ça c'est dans les endroits où il y a des qadis, mais ici bon, on pourrait dire le mufti ou le mwanana, le alim de famille qui a l'habitude de régler les affaires de la famille, il doit envoyer fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tout d'abord il doit analyser, Ibn Kathir rahimahullah, il dit, tout d'abord il doit faire en sorte, il doit essayer d'isoler ces gens-là, il doit isoler le monsieur de la femme pour voir est-ce que ça se calme. Et très souvent après une petite rupture, après une petite coupure de 10 ou 15 jours, si vraiment il y a de l'amour, ben l'homme va se rendre compte que sa femme lui manque. Et vice-versa, la femme aussi va se rendre compte que mon mari me manque s'il y a une petite coupure. Au cas où si malgré la coupure, on voit que les tensions restent aussi vives qu'au début, ça veut dire qu'il y a un réel problème de fond. Alors comment est-ce que le qadi va, ou le mufti, va régler ce problème de fond? S'il appelle l'homme et la femme devant lui dans son bureau pour qu'ils discutent, ça va être la bagarre générale. Le monsieur va insulter sa femme, va lui dire toutes ses vérités, et la femme va dire toutes les vérités au mari, ça n'arrangera aucunement le problème. Donc les protagonistes ne doivent pas être présents. Les protagonistes ne doivent pas être présents au moment où on va essayer de régler le conflit. Le qadi, le mufti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer « hakama min ahlihi ». De nos jours, il y a un terme ça, on appelle ça un médiateur. Il va appeler un médiateur de la famille du garçon et un médiateur de la famille de la fille. Des gens en qui les deux personnes ont confiance. Par exemple, je ne sais pas moi, le frère du monsieur et la sœur ou la tante ou la maman de la fille. Des gens qui connaissent bien le problème et des gens en qui ces gens-là, ils ont confiance. Et ce sont ces deux médiateurs qui vont discuter entre eux, sans les convoquer. Ils vont essayer de décortiquer le problème et de voir est-ce qu'il y a possibilité. Et ils vont donner priorité à un retour. Car la situation, le cas de figure qui est évoqué dans ce verset, c'est au cas où si, Inch'Allah, il y a possibilité de retour. Il y a beaucoup de cas comme ça dans les khilafats de tous les Umara, les Amir al-Mu'minin, à l'époque de Uthman, Ibn Affan, etc. Ils avaient envoyé Ibn Abbas et Muawiya comme deux hakam, comme deux médiateurs dans un couple dans lequel il y avait des soucis. Ça nous fait comprendre que même à l'époque des Sahaba, il y avait des problèmes dans les couples. D'accord? Ça, ce sont là des choses humaines, qu'un mari ne s'entende pas parfois avec sa femme, qu'un mari puisse être excédé par les manières de sa femme et vice versa, que la femme n'en peut plus de supporter les excès de langage ou les caprices de son mari ou alors les manies de son mari, etc. Ça, ce sont des choses qui sont humaines. Ça peut arriver, quel que soit le degré de piété. Mais le musulman intelligent, c'est celui qui sait régler ses conflits en se référant au Coran et non pas en balançant des menaces ou en divorçant dès qu'il y a un souci. Il y a d'autres récits encore, il y a pas mal de récits, on ne va pas s'attarder là-dessus, où les sahabas vont voir des coups pour essayer de régler les différends. Alors nous voyons que dans l'islam, le talaq, c'est vraiment le dernier recours. C'est la solution de non-retour. Quand vraiment on a épuisé toutes les solutions, il n'y a plus rien à faire, là, le mari va donner le divorce à sa femme, mais dans la dignité. Dans une période où il n'aura pas approché sa femme, quand sa femme est en état de pureté, et il lui donnera un seul talaq. Et pendant le idda, pendant la période où, les trois périodes d'impureté, où la femme va rester sous le toit de son mari, et le mari s'occupera des dépenses de la femme, avec espoir qu'en vivant toujours ensemble, il y ait un retour d'amour, et il suffira d'un geste d'amitié, de tendresse, pour que le nikah soit reconduit immédiatement. Un talaq sera déjà perdu, mais le nikah sera reconduit. Donc l'islam a tout fait pour que l'homme s'entende avec sa femme. Et on est à des années-lumière de certains faits d'actualité qu'on m'a raconté hier. Il paraît que du côté de l'Afghanistan, où il y aurait des talibans, est-ce que ces gens-là existent ou alors ça n'existe que dans la télé, wallahu alam, le cas d'une femme qui était mariée de force à un homme. Déjà, le mariage de force n'existe pas dans l'islam. Lorsqu'un l'homme, lorsqu'un papa amène une demande pour sa fille, la fille doit absolument donner son approbation, son accord. Et là, si elle ne parle pas, ça veut dire qu'elle est d'accord. Mais si elle dit non, le papa ne peut pas. C'est contraire au principe de la religion que de marier de force sa fille avec un homme. Donc là, déjà, ils ont faux. Donc, dans un cas de mariage arrangé, ça c'est ce qui s'est passé apparemment là-bas en Afghanistan, la femme a fui le foyer, elle s'est enfuie. Et donc après, là-bas, il y a beaucoup d'histoires de tribus, ils l'ont rattrapée, ils l'ont battue, je ne sais pas quoi. On l'a même torturée, coupé le nez, coupé les oreilles, je ne sais pas quoi, on m'a raconté. On a essayé de défigurer cette personne et on l'a laissée pour morte. Mais elle n'était pas morte, elle a été récupérée par d'autres personnes qui ont mis les projecteurs mais à fond sur ce fait, sur cet événement, pour essayer de donner, encore une fois, une image extrêmement négative de la religion. Donc il y a la désinformation, ça on n'est pas dupe. Il y a la désinformation, ils vont chercher le moindre petit faux pas dans une tribu éloignée de je ne sais pas quel village, dans un trou perdu, pour essayer de mettre en avant ça et dire que voilà ce que l'islam radical enseigne aux musulmans. Mais réellement, nous voyons que dans toutes les communautés, dans toutes les populations, que ce soit de ces pays, que ce soit dans les pays africains, dans les pays asiatiques, dans les pays européens, très souvent, nous mélangeons la religion, le culte, donc la religion avec les cultures, et surtout dans les relations avec les femmes, nous n'avons pas la patience qu'un homme doit avoir avec son épouse. Rappelez-vous, l'année dernière, on citait ce hadith, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit « Ahsanukum li ahli, wa ana ahsanukum li ahli ». Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leur famille, c'est-à-dire avec leur, quand on parle de famille, ce sont l'épouse et les enfants. Et moi, je suis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, moi je suis celui qui agit le mieux avec ma famille. Ça, c'est l'exemple prophétique dans les rapports de la vie de tous les jours avec l'épouse. Et cette histoire, cette anecdote qu'on avait racontée l'année dernière également, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez une de ses épouses, alors il y avait une autre épouse qui a amené un récipient de nourriture. Et cette autre épouse, je n'ai pas le hadith sous les yeux pour pouvoir vous dire les noms, c'était celle qui cuisinait le mieux. Elle avait fait un repas que le prophète aimait particulièrement. Alors la femme qui accueillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce soir-là, elle était vexée de voir que l'autre envoie un plat certainement plus copieux que ce qu'elle avait préparé. Imaginez que vous êtes chez vous, on avait déjà donné l'exemple l'année dernière, c'est juste un rappel. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison, et dites madame, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle dit écoute, fous la paix là, il mange pas. Ou alors, chauffe un morceau de pain de beurre, il mange, je suis fatigué. Et en parallèle, votre sœur, qui cuisine extrêmement bien, elle a fait un super repas, elle l'envoie. Alors votre épouse, elle est jalouse, elle est énervée. Alors moi, je n'ai pas cuisiné ça, et elle ose envoyer quelque chose, et tout, etc. Donc, il y a eu ce conflit. L'épouse fut prise de jalousie, et elle a pris le récipient de nourriture de la main du petit garçon qui avait amené, elle a jeté le récipient devant le prophète sallam, la nourriture fut perdue, et le bol cassé en mille morceaux. Et là, voyez la réaction du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était nous, comme on l'avait dit l'année dernière, soit on se serait emporté, il y aurait peut-être eu des violences physiques, on aurait claqué la personne ou je ne sais quoi, ou du moins on aurait copieusement insulté la personne, ou alors ce soir-là, elle aurait dormi chez sa maman. Mais le prophète alayhi wa sallam a donné une leçon d'humilité, une leçon de patience, de compréhension, et surtout une leçon pour tous les musulmans, toutes les générations jusqu'au Qiyamah. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures qui est venue sur cette terre, il s'est baissé, il a ramassé la nourriture, il a ramassé les débris, les éclines donc de ce récipient, il a tout nettoyé et il n'a pas dit le moindre mot, il n'a pas fait le moindre reproche à son épouse. Et il y a dans cette anecdote une leçon d'humanisme, une leçon de grandeur d'âme, de comportement exemplaire qu'un homme peut avoir avec son épouse. Et on est à des années-lumière de ce qui se passe dans différents pays, où on essaie de donner l'image de l'islam à travers des faits qui sont extrêmement rares et des faits qui sont marginaux, caractéristiques de certaines populations qui suivent plus les habitudes tribales que la charia. Et puis après cela, si on a fait déjà nos 10 minutes, et voilà. Après Allah Azza wa Jal, il continue, Allah Azza dit, wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, et là il y a les ordres. Allah Ta'ala ordonne aux musulmans d'adorer Allah seul, de ne pas faire le shirk, et juste après Allah Azza wa Jal, juste après l'ordre de ne pas faire le shirk, Allah Ta'ala rappelle, wa bil walidayni ihsana, de bien agir avec vos parents. Et souvent dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala ordonne de l'adorer lui uniquement et de ne pas lui associer d'autres êtres, ne pas faire le shirk, immédiatement après il y a le droit des parents. Allah Ta'ala met le droit des parents juste après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite vient, wa bidhil qurba, Allah Ta'ala rappelle aux musulmans le droit de la famille, le droit des orphelins, le droit des pauvres, des voisins, les voisins qui sont proches et les voisins qui sont éloignés. Tout ça, mes chers frères, fera de nous de bons musulmans. Si nous avons répondu présent dans la salat, nous répondons présent au moment où on doit être là pour le culte, pour la relation directe avec Allah, mais si on néglige nos devoirs en tant que papa, en tant que mari, en tant que tonton, en tant que voisin, etc., 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 ben nous ne serons jamais de vrais musulmans, nous n'aurons jamais la foi complète, car mes chers frères, l'islam c'est un tout. Qu'Allah nous accepte, et permettez-moi de terminer avec ce merveilleux hadith rapporté par Imam Ahmed, pour montrer qu'un voisin se doit de se faire du souci pour son prochain. La yashba'u rajulu duna jarihi. Il est inconcevable qu'un musulman ait le ventre plein le soir alors que son voisin n'a rien à manger. Qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité dans ce mois de Ramadan de renouer un petit peu les relations avec nos épouses, de montrer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur des comportements, le comportement qu'on a pu avoir lorsque on lui faisait des avances, ou alors les premiers jours de mariage, lorsqu'on était un prince charmant, maintenant on est devenu une brute, un Shrek ou je ne sais quoi, on essaie de revenir vers ces comportements nobles qui ont fait qu'on a pu séduire cette femme. Et dans notre famille aussi, on a un comportement correct, exemplaire, avec nos voisins, les voisins proches, les voisins éloignés. Et dans le tafsir du Coran, on parle des voisins qui sont musulmans, également des voisins qui ne sont pas musulmans, le respect de ces voisins. Moi, ça m'a dit que tellement Jibril insistait sur le droit des voisins que j'avais peur qu'à un moment donné, il dit que le voisin a une part d'héritage également. Et là, si on parle de voisinage, n'oublions pas que nous sommes dans une mosquée, nous avons des maisons tout autour, des gens qui sont de différentes confessions, ce sont nos voisins également. Et leur droit, c'est qu'on respecte leur moment de repos. Donc, quand on vient à la masjid, quand on sort de la masjid, on fait en sorte de ne pas déranger les gens. Si on va parler à voix haute, on va s'attrouper auprès des maisons, des portails, des autres personnes. De un, on est en train de faire un péché grave, on est en train de nuire à nos voisins, et en plus, on risque de donner une image extrêmement négative de la religion. Les personnes, ils se disent que voilà, les musulmans, ils font comme ça, ils font leur prière, mais ils sont égoïstes, ils nous perturbent, on ne peut pas dormir, etc., etc. Donc, c'est à travers tout ça, c'est tout ça qu'on doit travailler pour que je devienne, chaque musulman devienne un intermédiaire pour la guider des âmes. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.